qu'en une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les troisièmes vendredis du mois dans notre émission Il n'y a pas que le 8 mars et en podcast sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Michel, Joël et Natacha. Et bonjour à Brigitte, notre nouvelle recrue qu'on retrouvera en studio le mois prochain. Comment ça va les filles, toi Joël ?
Eh bien si on parle de la petite bulle autour de moi, ben, ça va.
Grande cause nationale de l'année. Alors si on parle de la petite bulle autour de moi, ben, ça va, pas de problème. Grande cause nationale de l'année 2025, la santé mentale est prétexte à un nombre incalculable de rapports, d'articles. On compte plus les entrées sur Internet entre conférences, pubs d'une thérapeute, enfin du moins c'est comme ça qu'elle se présente, pour un atelier qu'elle anime. J'ai trouvé aussi quelques titres à sensation. Il y a quelque temps, nous avons déjà réalisé une émission sur la santé des femmes. Et bien ici, c'est la santé mentale dont il s'agit. C'est quoi cette notion? Et puis les femmes, elles y ont quelle place? Et oui, au fait, mais comment ça va vous, la santé, le moral?
Eh bien, des réponses à apporter qui sont vraiment denses. Donc, on vous propose deux épisodes pour cette émission. Aujourd'hui, plutôt, on va rentrer dans la matière. Et puis, le mois prochain, on abordera des points un petit peu plus précis.
Il n'y a pas que le 8 mars sur Radio B.
Quand on parle de santé mentale à Bourg-en-Bresse, on pense assez rapidement au centre psychothérapeutique de l'Ain, le CPA, et à son histoire. Avant, il existait deux institutions, Saint-Georges et la Madeleine. Michel, tu as assisté à une conférence menée par Agnès Bureau et la psychiatre Carole Échard autour de l'histoire de ce bâtiment. Et tu as poursuivi tes recherches.
Au départ, jusqu'au 19e, la Madeleine est un lieu de prise en charge des femmes indigentes et des femmes malades. C'est une vie dans la misère, la saleté, la promiscuité et sans aucun soin médical pour les déranger. Puis l'État décide de séparer les pauvres des malades en créant des asiles dédiés aux fous. L'établissement Hospice Sainte-Madeleine est fondé le 20 septembre 1826 par un traité entre la congrégation des sœurs de Saint-Joseph du diocèse de Belley et le préfet du département de l'Ain. Il est alors exclusivement destiné à l'accueil des femmes atteintes de troubles mentaux.
Et il s'agrandit progressivement ?
Oui, à partir de 1840, on accueille des patients, hommes et femmes, de Saône-et-Loire. Il faut agrandir le site avec l'achat des terres du Mail. Une chapelle, l'actuelle chapelle Art déco, est construite et consacrée en 1935. L'établissement cesse alors d'être désigné comme un asile en 1937. Il devient officiellement un hôpital psychothérapeutique en 1947 plutôt, marquant une évolution dans la conception des soins.
Et il faudra attendre 30 ans pour obtenir la mixité.
Le 2 décembre 1971, l'hôpital psychiatrique de Sainte-Madeleine pour femmes fusionne avec l'hôpital psychiatrique Saint-Georges pour hommes, pour former le centre psychothérapeutique de l'Ain. L'établissement devient alors mixte et s'ouvre davantage sur l'extérieur. En 1972, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, qui assurait la gestion depuis l'origine, confie la responsabilité du CPA à l'association Orsac. L'activité hospitalière sur le site de la Madeleine a cessé dans les années 2000. Le site a fait l'objet d'une vaste réhabilitation et a été rouvert au public. Aujourd'hui, le site de la Madeleine est en partie un parc public et plusieurs de ses bâtiments historiques sont réaménagés, notamment pour accueillir des services du conseil départemental de l'Ain et des résidences pour étudiants ou jeunes actifs.
Et récemment, dans le parc de la Madeleine, une stèle a été inaugurée en l'honneur d'Hortense, la mère de l'écrivain Charles Juliet.
Oui, Charles Juliet, est né en 1934 à Jugerieux dans l'Ain. À 3 mois, il est placé dans une famille de paysans suisses qu'il ne quittera plus. Il a reçu le prix d'électrice de Elle pour l'année de l'éveil en 1989, le prix Goncourt de la poésie pour Moisson en 2013 et le grand prix de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre en 2017. Il est mort le 26 juillet 2024.
Et ce qui nous intéresse dans son œuvre, c'est le grand traumatisme de sa vie, celle de la perte de sa mère.
Oui, à 7 ans, il a 7 ans lorsqu'il découvre que sa mère n'est pas morte, mais internée à la Madeleine depuis sa naissance, sans doute victime d'une sévère dépression du postpartum. Elle est vraisemblablement morte de faim. Il évoque la maladie de sa mère dans Lambeau, publié en 1995. C'était une femme sensible et intelligente, issue d'un milieu paysan. Elle parlait peu et était isolée. Après son 4e accouchement, elle sombre dans la dépression et elle est internée à la Madeleine. Charles Juillet écrit que la maladie de sa mère est liée à l'impossibilité de communiquer. C'était une figure du mutisme, de celle qui n'a pas pu parler ni être écoutée, ce qui a fracturé son être. Juillet se fait l'écrivain de ceux dépossédés de la parole.
Hortense, la mère de Charles Juillet, fait partie des victimes invisibles de la Seconde Guerre mondiale.
Durant la guerre, les ressources, alimentation, soins, personnel médical sont massivement redirigées vers l'effort de guerre. Les populations qui sont jugées inutiles, comme les malades mentaux, ont été abandonnées. Entre 1940 et 1945, environ 40 000 patients psychiatriques sont morts dans les hôpitaux psychiatriques français, principalement à cause de la faim, du froid et de l'absence de soins. Le personnel était débordé ou mobilisé et les hôpitaux recevaient très peu d'aide. C'est un épisode longtemps resté tabou dans l'histoire française. Cette vérité historique réapparaît périodiquement avant de s'enfouir à nouveau au fond des consciences pour petit à petit se laisser oublier. C'est un psychiatre lyonnais, Max Lafont, qui a prouvé que les malades ont reçu des rations insuffisantes pour leur survie. On les considérait tous inaptes à l'humanité et incurables. Bien sûr, le pouvoir de l'époque n'a pas donné explicitement l'ordre de les liquider, mais personne n'a vraiment réagi devant cette hécatombe.
On appelle cette période l'extermination douce, sacré euphémisme. Et si on revient à notre sujet autour de la santé des femmes, ça paraît tout de même hallucinant en 2025 d'imaginer une femme mourir, abandonnée dans un hôpital, pour une dépression du postpartum. Ça laisse imaginer que la prise en compte de la santé des femmes a peut-être un peu évolué quand même. Que nous raconte l'histoire à ce sujet?
D'abord, une petite approche historique sur le traitement des femmes considérées comme folles. Traitement souvent marqué par la violence, l'incompréhension, l'exclusion sociale et le contrôle. Au Moyen-Âge, la folie est souvent interprétée à travers un prisme religieux. On pense que les maladies mentales sont causées par le diable, c'est la possession, par des démons, ou que c'est une punition divine. Les femmes, perçues comme souffrant de troubles mentaux, sont fréquemment accusées de sorcellerie et torturées, emprisonnées et exécutées, souvent brûlées vives.
À partir de quel moment est-ce qu'on rentre dans le champ médical?
Plus tard, du 15e au 18e siècle, on voit apparaître les asiles, des institutions où sont enfermées les personnes jugées folles, mais sans soins vraiment adaptés. Exemple, l'hôpital de la Salpêtrière à Paris, créé au 17e, qui accueillait des milliers de femmes, souvent indigentes, rebelles ou simplement jugées immorales. Au fil du temps, la Salpêtrière ressemble de plus en plus à un bagne où les femmes sont contraintes pendant des années à des travaux forcés, souffrent de problèmes d'hygiène et sont victimes de châtiments. La plupart y entrent pour y rester à vie.
Et pourtant, il existe un cadre légal dès le 19e siècle.
Dès 1938, la loi dite « loi des aliénés » exige que chaque hospitalisation soit appuyée par un certificat médical extérieur à l'hôpital, puis validée ensuite par un médecin de l'hôpital. Mais cette loi est souvent détournée à des fins policières et morales. Il ne semble pas qu'il y ait eu davantage de femmes que d'hommes placés en asile. Par exemple, sur Bourque, la création des asiles La Madeleine et Saint-Georges, il y avait sensiblement autant d'hommes que de femmes internées. Ce qui diffère, ce sont les causes d'internement, les façons de soigner et de prendre en charge. Les médecins commencent à associer certains traits féminins, hystérie, émotivité, sexualité, à la folie. On pensait que l'utérus pouvait errer dans le corps et provoquer des troubles mentaux. Les femmes étaient souvent traitées sans consentement, parfois soumises à des saignées, des purges ou des isolements prolongés.
Et le 19e siècle, c'est l'avènement de la psychiatrie moderne, avec Freud entre autres.
Oui, la psychiatrie moderne et le contrôle social des malades. Les médecins, des hommes, comme Charcot ou Freud, commencent à théoriser les troubles mentaux. Mais les femmes restent les premières concernées par les diagnostics de névrose ou d'hystérie. On donne des explications organistiques. Nymphomanie, lubricité sont forcément liées au clitoris, aux ovaires, donc ablation. Les femmes sont internées pour des raisons très variées. Dépression du postpartum, contestation du mari, sexualité non conforme, prostitution, trop grande lectrice de romans, refus du devoir conjugal, mauvaise fréquentation. Des milliers de femmes ont été internées pour ces motifs. Cela semble invraisemblable, mais les certificats médicaux appliquent pourtant les normes de cette époque. Une femme qui veut faire de la politique au XVIIIe siècle n'est pas considérée comme normale. Cette société patriarcale interdit aux femmes le génie, l'art, la politique et l'armée qui sont réservées aux hommes. Le refus de faire le ménage n'est pas vu comme une révolte ou une volonté d'émancipation, mais comme un signe de folie.
Tu as des exemples ?
Oui. La pianiste Ercilly Rouy est internée pendant 15 ans à la demande de son demi-frère, car elle prétendait être musicienne, peut-on lire dans son dossier. Il y a aussi l'exemple d'une cuisinière qui écrivait de la poésie et qui a fini ses jours à la Salpêtrière, internée à la demande de son patron. Une femme jugée folle perdait toute légitimité sociale. On n'écoute pas leurs témoignages, leurs droits à la maternité ou à la propriété sont supprimés. Les femmes internées sont vêtues d'uniformes et perdent leur identité. Elles n'ont plus aucune relation sociale et sont pratiquement abandonnées par leur famille. Les traitements sont violents et on pratique aussi la lobotomie. Pratiquée jusque dans les années 1980, la lobotomie visait surtout les femmes. Surtout les 1340 opérations menées en France, Belgique et Suisse entre 1935 et 1985, 84% des patientes étaient des patientes.
Et pourtant, cette pratique barbare est encensée à l'époque.
Oui, en 1949, son inventeur, le portugais Egas Moniz, qui est mort en 1955, encore un homme, a même été récompensé du prix Nobel. L'heureux bénéficiaire d'un de ses exploits est une femme, une ancienne prostituée de 63 ans, souffrant de mélancolie et de paranoïa. Il conclura au succès et cette pratique s'impose peu à peu en Europe, aux États-Unis et au Japon. Les asiles étaient pleins, les aliénés enfermés, entravés ou lobotomisés. Aujourd'hui, on dirait que l'internement était genré. La majorité des internements étaient sans doute liés à de vraies pathologies, mais il y a toujours une lecture des comportements en fonction des normes sociales.
Bon, et est-ce qu'on évolue un peu au XXe siècle ?
La psychiatrie devient plus scientifique. On distingue mieux les différentes pathologies. On commence à introduire les traitements médicamenteux dans les années 50 avec les neuroleptiques. Mais encore du sexisme. Le diagnostic de folie est encore plus facilement posé chez les femmes, souvent pour des comportements non conformes. Émancipation, divorce, homosexualité. Et certaines femmes ont été stérilisées de force, internées et privées de leurs droits. Dans les années 70, c'est l'émergence du féminisme. Les mouvements féministes dénoncent l'usage de la psychiatrie comme outil de contrôle des femmes au service du patriarcat. Encore aujourd'hui, les femmes sont encore plus diagnostiquées que les hommes pour certains troubles, l'anxiété, la dépression, les borderline. Certaines critiques dénoncent une surmédicalisation ou un diagnostic genré, les comportements masculins et féminins étant jugés différemment. Les femmes racisées ou précaires sont encore plus exposées à l'institutionnalisation et à la stigmatisation ou à des mauvais traitements. Le poids des violences sexuelles ou conjugales, souvent mal pris en compte.
Et on va continuer d'en parler dans cette émission. Ce qui continue de nous surprendre encore une fois, c'est à nouveau ce processus d'individualisation des femmes, avec le cas notamment de Madeleine Pelletier.
Oui, nous avons parlé de Madeleine dans une précédente émission. Je repense à elle aujourd'hui, car c'est un cas d'école. Elle résume à elle seule la relation entre les femmes, le patriarcat et la psychiatrie. Madeleine Pelletier, qui était née en 1874, est une femme étonnante, une avant-gardiste, impressionnante par son histoire personnelle. Première femme psychiatre de France, franc-maçonne, anarchiste, condamnée pour avoir pratiqué des avortements puis internée. Elle prônait déjà l'égalité entre les femmes et les hommes au début du XXe siècle. Sa famille est pauvre à Paris. Son père est chauffeur de fiacre, sa mère marchande de légumes. Ses parents sont très croyants et de sympathie royaliste. À 15 ans, Madeleine fréquente les cercles anarchistes et socialistes. Sortie de l'école à 12 ans, elle passe son bac en candidate libre, le réussit, puis décide de suivre des études de médecine. Elle se tourne au bout de 5 ans d'études vers l'anthropologie et travaille notamment sur les différences entre les cerveaux féminins et masculins, car elle est en désaccord avec la thèse en cours de la supériorité du cerveau masculin sur celui des femmes. Lassée par les théories sexistes de l'anthropologie de l'époque, elle se tourne vers la psychiatrie. Mais le concours des internats, des asiles, est interdit aux femmes sous prétexte qu'elles ne jouissent pas du droit politique. Elle est alors aidée par le journal La Fronde, journal féministe, et obtient le soutien du jury. Un an plus tard, elle achève sa thèse et est autorisée à passer le fameux concours. Elle peut alors pratiquer.
Et qu'est-ce qui se passe ?
Elle porte les cheveux courts et un costume trois pièces, au même titre que les hommes. Un look qu'elle gardera toute sa vie. Elle prône alors une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Droit politique, service militaire, nouvelle morale sexuelle, la fin du mariage et la cellule familiale. Qualifiée de trop radicale par ses consoeurs, elle est d'ailleurs peu soutenue par les autres féministes qui la jugent trop extrême. Déçue par le manque de radicalité des partis socialistes, elle se tourne vers les anarchistes qui partagent ses idées sur l'avortement, l'antimilitarisme ou encore le malthusianisme, contrôle strict des naissances. Après la révolution russe en 1921, elle rejoint les communistes mais retire son soutien aux bolcheviks quelques années plus tard devant la politique de la terreur menée par Lénine. Plusieurs fois accusée d'avoir pratiqué des avortements, dans un premier temps, elle n'est pas poursuivie.
Et son destin bascule en 1939 ?
Oui, elle est arrêtée pour avoir aidé une jeune fille de 13 ans, enceinte, à avorter. Elle avait été violée par son frère. Elle ne cesse de clamer son innocence et soutient qu'une femme de 65 ans, comme elle, atteinte de paralysie, troubles dont elle souffrait à la fin de sa vie, ne pouvait pas pratiquer un avortement. Elle est tout de même déclarée coupable et internée à Sainte-Anne, puis à Épinay-sur-Orge. Elle mourra quelques mois plus tard d'un accident vasculaire cérébral en asile psychiatrique.
Moi, j'ai relu le livre de Charles Juillet sur sa mère. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment l'environnement a des répercussions sur notre vie. C'est évident, bien sûr, mais ce n'était pas pris en compte à ce moment-là. Charles Juillet raconte que la vie de sa mère, son assignation aux tâches de la ferme et de la famille. Alors, elle est née, elle, de 3 enfants. Obligée de quitter l'école malgré elle, elle avait des capacités pour continuer des études pourtant. Elle vit avec un père qui est taiseux, qui est violent. Elle se marie, elle met au monde 4 enfants les uns après les autres et cette femme qui était déjà déprimée fait une tentative de suicide. Et c'est alors qu'elle est internée. Elle avait soif de vivre, soif d'apprendre, deux soifs violentes et insatiables, ta hantise est de mourir sans avoir rencontré ce que tu ne sauras dire, mais qui te fait si douloureusement défaut. Le lendemain de la Toussaint, tu entres à l'hôpital de Bourg. Avant que tu ne rencontres un médecin, on te retire ton alliance, tes vêtements, on te tond, on te met des sabots, ainsi qu'une robe de drap brun, informe, au dos de laquelle sont imprimées à l'encre noire 2 grandes lettres, H et P. On te pousse dans une salle sombre, nauséabonde, où vont et viennent une 20aine de malades, tu te retournes pour t'enfuir, mais la porte claque. L'horreur.
Tu apprends, je sens ton cœur. Tu comprends, tu comprends.
Le titre « Anxiété de pomme ». Joël, tu t'es penchée sur la santé mentale aujourd'hui ou comment les professionnels se questionnent aujourd'hui autour de la santé mentale des femmes ?
Oui, j'ai eu l'occasion d'être en communication avec Claire Durosard. Elle est psychologue clinicienne. Elle travaille depuis une vingtaine d'années dans différentes structures avec des enfants, des adolescents, alors en hôpital, en CMP. Le CMP, c'est le lieu de soins publics qui offre des consultations médico-psychologiques et sociales à toutes les personnes en difficulté. Et actuellement, elle travaille dans le secteur de la protection de l'enfance. Quand on emploie ce terme santé mentale, en fait, je lui ai demandé, on parle de quoi ?
S'en soucie tout d'un coup après avoir plutôt affaibli les services publics de psychiatrie des décennies durant avec des politiques sanitaires quand même tout à fait délétères. Bon, bref, tout ça s'est pris dans le mouvement général vis-à-vis des services publics, hein, mais bon. Bon, la psychiatrie, c'est le parent pauvre, c'est bien connu. On pourrait dire qu'on a plusieurs définitions et disons qu'aujourd'hui, c'est compliqué de s'emparer de ce terme parce qu'il est quand même récupéré politiquement avec une conception qui n'est peut-être pas celle des soignants, ou en tout cas de certains soignants, on va dire. La santé mentale dans ce sens-là, c'est plutôt un mot que j'aurais envie de proscrire. Voilà, j'ai un peu du mal en tant que psychologue à utiliser ce terme parce qu'il est connoté aujourd'hui et c'est un peu dommage parce qu'en fait on devrait plutôt se le réapproprier ce terme-là justement en y remettant des valeurs qui sont... et une approche du sujet qui est quand même singulièrement différente de celle qui est prônée effectivement derrière cette notion. Du coup, la santé mentale, c'est quoi ? Alors si on suit Freud, c'est la capacité à aimer et à travailler. Alors le problème, c'est que qu'est-ce qui met derrière le terme de travail ? Mais ce qu'on peut entendre, en tout cas moi comme je l'entends, c'est la capacité pour un sujet à pouvoir être avec les autres. Sans que ça le fasse trop souffrir.
Alors, une définition de l'OMS, elle est écrite, je vais vous la lire, hein, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté.
Alors aujourd'hui, les chiffres officiels considèrent que les troubles liés à la santé mentale touchent presque un Français sur cinq et 13 millions de personnes présentent un trouble psychique chaque année en France.
Oui, ce qu'on considère comme troubles mentaux varie dans le temps et selon les cultures. En fait, Michel nous l'a déjà dit, mais Mona Chollet, dans son livre « La puissance invaincue des femmes », décrit comment on accusait de sorcellerie et on brûlait les femmes qui sortaient du droit chemin. Bien plus près de nous, l'homosexualité, considérée comme une maladie mentale jusqu'en 1990 par l'OMS, jusqu'en 1992 par la France, et il faut quand même attendre 2009 pour que la transidentité ne soit plus considérée comme une affection psychiatrique par la France.
Les troubles mentaux, ils sont répertoriés, ils sont classifiés dans ce qu'on appelle des nosographies. La nosographie psychiatrique, en fonction de l'influence d'une pensée ou d'une autre, ben, elle ne va pas être forcément semblable. Elles sont différentes. On va dire que moi, ma formation, c'est plutôt psychopathologie, c'est plutôt la nosographie plutôt orientée par la psychanalyse. Aujourd'hui, ce n'est pas celle qui a cours, qu'on a les services hospitaliers, etc. C'est plutôt maintenant, il y a comme l'influence de la pensée nord-américaine sur les pratiques et même les orientations théoriques qui fait que le DSM, alors je ne sais plus, je crois qu'on en est au 5, a pris quand même une place très importante dans l'approche des troubles psychiques, du fonctionnement psychique, par l'angle un peu comportemental, c'est-à-dire les mots ont une importance énorme puisque classifier des... Comment dire, avoir une approche de la santé mentale en termes de troubles, c'est avoir une approche par le comportement, quoi. Alors que la classification plutôt d'orientation psychanalytique, elle a une approche par comment dire, le fonctionnement de la personne. Si on prend un exemple tout bête, quelqu'un qui a, je sais pas, des troubles alimentaires, un peu tendance, tout ça, là, les fameux TCA, conduite alimentaire, ça ne nous dit pas comment cette personne fonctionne psychiquement, ni comment dire, quelles peuvent être, à quoi peuvent être reliés ces symptômes en termes d'économie psychique. C'est-à-dire que on peut avoir des troubles alimentaires parce que, je sais pas, on a une phobie ou on a un fonctionnement anxieux. On peut avoir, comment dire, le trouble, c'est finalement un peu comme l'équivalent d'avoir le nez qui coule et qu'on va chez le médecin. Ça ne dit pas de quoi on est malade. Bon, après, c'est pas toujours utile de savoir, quand on a le nez qui coule, quel est le virus. Mais en termes de psychopathologie, c'est quand même important de s'intéresser au fonctionnement général de la personne, à son économie psychique, quelle est la nature de ses angoisses, comment le sujet il défend par rapport à ce qui l'angoisse, enfin, d'essayer de comprendre le fonctionnement général plutôt que de s'intéresser à leur manifestation. Du coup, c'est une approche très différente du sujet. Soit on a une approche du sujet sur le plan, comment dire, de son fonctionnement général, on essaye de saisir comment il s'organise psychiquement pour essayer de, bah, de l'accompagner dans le soin. Soit on a une approche par les troubles, et les troubles, c'est ce qui est visible. Donc après, ça induit des pratiques différentes, puisque bah, après, il s'agira d'un côté de réduire les troubles, enfin de faire disparaître les troubles, sans forcément, enfin d'une manière plus comportementale, alors que le psychologue clinicien, il va s'intéresser à comment fonctionne la personne, à son histoire et à l'impact de son histoire sur son organisation psychique.
Alors, repérer des troubles, être capable d'intervenir, accompagner une personne en état de crise d'angoisse ou sous l'emprise de produits, par exemple, c'est ce que propose actuellement l'État sous la forme de formation aux premiers secours en santé mentale. Une formation comme il en existe pour les premiers gestes, pour les gestes de survie et le brevet de secourisme que l'on connaît depuis très très longtemps. Et ces stages se remplissent très très vite. Alors Carole Echard, que nous rencontrerons le mois prochain, est très critique sur ces initiatives, car les formations sont confiées d'abord à des boîtes privées et surtout sans amélioration des prises en charge après. Et c'est bien de dépister des mal-être, mais ce serait mieux de donner les moyens à la psychiatrie. Claire Durosard nous en dit quelques mots à ce sujet.
Même si c'est essentiel, la prévention, on se dit que si on mettait beaucoup d'argent quand même dans la prévention, peut-être qu'on aurait moins à traiter en fin de chaîne là, les conséquences d'une prévention pas assez investie, quoi. J'allais dire, toute initiative est bonne à prendre. Le problème, c'est que comme on est quand même un peu en pénurie de moyens, c'est dommage de mettre de l'argent là-dedans quand les CMP manquent cruellement de personnel, que ces personnels-là sont quand même maltraités par l'institution, ne serait-ce que dans les conditions de travail et notamment de salaire. Bon. Parce que des numéros verts, il y a quand même des choses déjà qui existent pour les personnes qui... Enfin, moi, je dirais que si on permettait aux gens d'accéder plus facilement à des psys, peut-être que déjà...
Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les numéros verts, il y en a un paquet. Il faudrait voir un peu comment c'est financé, qui finance. Ça pourrait être intéressant aussi. Alors, est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont atteints ou atteintes par des troubles? Certains troubles sont-ils genrés? Voilà, question à Claire.
Globalement, les femmes sont plus sujettes à la consultation psy que les hommes. Après, déjà, ça tient à une chose, hein, c'est à ce qu'on appelle la socialisation de genre. Enfin, je veux dire, le fait que les femmes soient en tant que femmes construites pour s'intéresser à leurs émotions et être beaucoup plus aptes que les hommes à en parler, ça les conduit plus facilement chez le psy. Hein. Et les hommes sont, du fait de leur socialisation genrée, aussi de fait plus réticents à initier cette démarche-là. Après, ce qu'on observe aussi, par exemple, à l'adolescence, enfin, dans les, comment dire, les manifestations des troubles psy, ça peut tout à fait, comment dire, on peut tout à fait retrouver une répartition genrée et définir un peu des lignées comme ça d'expression psychopathologique. C'est-à-dire que ce qu'on observe quand même, c'est que les femmes, elles sont plutôt sujettes à des symptômes, comment dire, elles sont moins dans le passage à l'acte. Enfin, par exemple, les hommes, on va les retrouver. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, les femmes, on va les retrouver à l'hôpital psy et les hommes, on va les retrouver en prison, quoi. En gros, c'est-à-dire que les hommes, ils vont manifester plutôt leurs troubles du côté plutôt des passages à l'acte, des conduites dangereuses, de la toxicomanie, par exemple, là où les femmes, elles vont faire plus de tentatives de suicide, quoi, ou il y a des scarifications ou des troubles de cet ordre-là qui sont plutôt tournés sur soi-même, quand les hommes, ils sont plutôt dans des troubles qui vont se tourner sur l'extérieur, quoi. Les femmes se tentent de suicider plus, mais échouent plus dans leurs tentatives, quand les hommes se suicident moins, mais réussissent. Bah oui, ça montre quand même que la violence, c'est pas la même chez les hommes et chez les femmes, quoi.
Dans son livre « Lambeau », que nous avons évoqué là tout à l'heure, les éléments de l'environnement, le système dans lequel la femme, la mère est enfermée, la pousse à la tentative de suicide. On disait bien, elle avait soif de vivre, elle avait soif d'apprendre, de soif violente et insatiable, écrivait l'auteur.
Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une chose intéressante quand même dans l'évolution de la pensée, c'est la prise en compte de l'environnement, alors, ou du système, pour peut-être le dire autrement. Alors la prise en compte de l'environnement, nous, dans notre pensée psy, ça fait un moment qu'on la prend en compte, puisque notamment on a des psychanalystes comme Winnicott qui ont beaucoup permis de commencer à penser le fait qu'un sujet, il ne peut pas être considéré, comment dire, ex nihilo, quoi, en dehors de tout contexte. Et Winnicott notamment a beaucoup permis d'introduire ça dans la pensée psychanalytique en incluant la question de l'environnement de l'enfant pour arriver à comprendre les souffrances d'un enfant. Et aujourd'hui, on retrouve cette pensée-là dans plein de domaines, hein, dans le domaine social, sociétal, avec toute la critique du patriarcat par exemple, et la mise à jour un peu du système social dans lequel on vit tous. Et je dirais que quand même pour ce qui est de la question de la santé mentale des femmes, puisque c'est le sujet, je trouve très heureux qu'on arrive aujourd'hui dans une société à penser quand même l'influence du patriarcat aussi sur, et donc les souffrances que produisent les injonctions sociales, parce que jusque-là, l'approche qu'on avait, elle était très centrée sur l'individu. Alors, nous, les psys, on n'est jamais que centré sur l'individu, puisqu'on prend quand même toujours en compte, ne serait-ce que les relations intrafamiliales, quand même, pour essayer de penser la souffrance d'un sujet. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, l'approche qu'on a aujourd'hui, qui inclut plus large que le système familial, hein, mais qui est le système social et culturel. Et est-ce que le burn-out en soi, c'est une maladie, ou est-ce que c'est un produit d'un système qui rend les gens fous, quoi. Enfin, je trouve que c'est intéressant qu'aujourd'hui, on s'intéresse quand même aux effets du système sur le sujet et de ne pas considérer la maladie ou la souffrance d'un individu comme seulement l'expression de sa propre difficulté ou peut-être d'une faiblesse ou d'une fragilité qui serait seulement individuelle, quoi.
Alors on a voulu aller encore plus loin dans notre recherche autour des inégalités entre les femmes et les hommes. Et Natacha, tu as trouvé des ressources en ligne.
Oui, quelques chiffres pêle-mêle. Alors Santé publique France souligne par exemple que le travail, donc le travail, le milieu du travail, est plus souvent un milieu défavorable à la santé psychique et physique pour les femmes. Ainsi, la souffrance psychique en lien avec le travail est deux fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes, 6% contre 3%. Toujours avec Santé publique France, qui relève ces dernières années des tendances défavorables pour les femmes en termes de troubles anxio-dépressifs, avec une augmentation importante de ces troubles pour les femmes. Alors, hommes et femmes sont tous concernés par une augmentation des troubles anxio-dépressifs depuis la pandémie de Covid-19, mais l'augmentation est nettement plus marquée pour les femmes. Les hausses sont particulièrement importantes pour les jeunes adultes. En 2021, plus d'une femme sur quatre de 18-24 ans rapporte un épisode dépressif dans l'année, contre environ un homme sur sept. Note Santé publique France. Et enfin, les tentatives de suicide ont augmenté de près de 6 points entre 2010 et 2021, passant de 7% à 13% pour les femmes.
Et pourquoi ces écarts ?
Alors, Claire Durosard donnait quelques pistes dans l'entretien qu'elle t'a accordé, Joël, avant. Dans un article intitulé « Santé mentale des femmes, oser en parler, mieux informer et accompagner », qu'on peut retrouver sur le site égalitéfemmeshommes.gouv.fr, il est souligné l'impact de facteurs sociaux qui fragilisent la santé psychique des femmes. Inégalités structurelles entre hommes et femmes, précarité, stéréotypes de genre, rôles sociaux imposés, charges mentales et émotionnelles pour les femmes et violences sexistes et sexuelles constituent ainsi des facteurs déterminants et majeurs affectant la santé mentale des femmes. Dit autrement, et comme le disait bien Claire Durosard tout à l'heure, la structure patriarcale de notre société malmène la santé mentale des femmes. À ces facteurs s'ajoutent aussi des événements qui, tout au long de la vie des femmes, peuvent impacter leur santé, comme la puberté, la fausse couche, la dépression du postpartum, l'infertilité, la maternité ou encore la ménopause.
Bon, et alors cela voudrait dire que les hommes vont mieux ?
Ben, pas vraiment. Claire Durosard soulignait aussi les problèmes de santé mentale qu'ils connaissent. Les décès par suicide sont par exemple 3 fois supérieurs chez les hommes. Les études tendent à montrer en fait un problème de sous-diagnostic des problèmes de santé mentale des hommes. Les hommes sont ainsi moins éduqués à exprimer leurs émotions. Ils consulteraient moins en cas de détresse. Et puis il y a aussi des biais sexistes de diagnostic qui tendent à dépister davantage chez les femmes des dépressions ou de l'anxiété bien plus facilement que chez les hommes considérés comme plus solides, moins fragiles. C'était Trouble in Mind de Nina Simone. Alors Maryse et Brigitte ont toutes les deux travaillé comme infirmières pendant plusieurs décennies au centre psychothérapique de l'Ain. Joëlle, tu les as rencontrées.
Oui, nous avons échangé sur différents sujets. Alors avec elles aussi, la notion de santé mentale, la place des femmes à l'hôpital, l'évolution des prises en charge des patientes. Et là, elles évoquent la notion d'hystérie que tu évoquais plus tôt, Michel, une pathologie qui ciblait les femmes.
Mais l'hystérie ciblait plus les femmes à l'époque. Voilà.
Parce que maintenant, c'est certainement plus répertorié de la sorte. On peut parler de ça d'il y a une quarantaine d'années, 30 à 40 ans en arrière. Hein. Que maintenant, comme on est complètement sorti du circuit du soin, je ne sais plus comment on appelle cette pathologie-là. Elle s'appelait l'hystérie, mais maintenant, je ne sais pas. De toute manière, tout a été changé dans les nominations, dans la nomenclature, dans les classements. Là. Donc, moi, personnellement, j'ai perdu le fil. Hein, alors,
ouais. Oui, moi aussi, je te rejoins. L'hystérie, c'était plus ciblé sur les femmes. Moi, j'ai vu quelques cas chez les hommes, mais c'était quand même une maladie de la femme.
Oui. Ça vient du mot utérus, donc voilà.
Ne fais pas ça. salpêtrière. Zéophile, pas la salpêtrière.
Calmez-vous.
Je me calme si je veux.
Hystérique. Je ne fais aucun doute.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royale, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Non, je ne perds pas mes nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Je n'ai pas perdu mes nerfs. Je suis en colère.
Est-ce que je peux répondre ?
Vous permettez ? Et il y a des colères très saines et très utiles.
Et après l'interview de Maryse et Brigitte, on a pu entendre un extrait du film de Mélanie Laurent, Le bal des folles. Nous y reviendrons en fin d'émission. Puis un passage du débat télévisé de l'élection présidentielle de 2007 qui opposait Nicolas Sarkozy à Ségolène Royal. Alors il n'était pas loin de dire hystérique. Hein. Mais pourquoi dès qu'une femme s'affirme, exprime une saine colère, l'insulte n'est jamais loin. Et oui, un homme est en colère, a du caractère, quand une femme, elle, perd ses nerfs, agit comme une hystérique, une furie, une folle. Alors d'où ça vient ce préjugé de la femme hystérique ? Et qu'est-ce que l'hystérie ? L'hystérie, c'est historiquement une maladie des femmes causée par leur utérus, on l'a entendu. Et oui, et si les femmes souffrent d'hystérie, c'est donc à cause de leur utérus. Hystéra, hystérone, signifie d'ailleurs matrice ou utérus en grec.
Et il faut remonter loin pour retrouver ce terme ?
Alors, pour retrouver l'origine du stéréotype femme égale hystérique, folle en puissance qui ne maîtrise pas leurs nerfs, il faut remonter à la Grèce antique. Au 5e siècle avant J.C., le grec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine, affirme que toute la femme est dans l'utérus. Les femmes et leur santé sont ainsi réduites à leur utérus, à leur corps soi-disant malsain et déréglé. On pensait notamment, Michel, tu nous l'as dit tout à l'heure, on pensait notamment que l'utérus se baladait dans le corps et que ses déplacements provoquaient des maladies. Pour Platon, en effet, faute d'abriter un fœtus, et oui, l'utérus erre, provoquant des douleurs diverses. Je cite Platon. La matrice, donc l'utérus, est un animal qui désire ardemment engendrer des enfants. Lorsqu'elle reste longtemps stérile après l'époque de la puberté, elle a peine à se supporter, elle s'indigne, elle parcourt tout le corps, obstruant les issues de l'air, arrêtant la respiration, jetant le corps dans des dangers extrêmes et occasionnant diverses maladies. L'hystérique, c'est donc une femme avec un utérus baladeur en mal d'enfant qui attend impatiemment la semence masculine. Intéressant. Bref, ça peut prêter à sourire, mais c'est sur la base de ces théories fumeuses et misogynes que l'hystérie est désignée comme une maladie spécifiquement féminine à partir du XVIIe siècle. Une maladie dont les symptômes seraient notamment les crises, des paralysies, des convulsions, la cécité, des douleurs inexpliquées.
C'est une époque où les médecins n'ont pas la moindre idée de la manière dont fonctionne le système reproductif. Alors quand ils constatent chez les femmes certains symptômes qu'ils ne parviennent pas à expliquer, ils les mettent sur le compte de l'utérus.
Ben oui, c'est pratique et c'est ce que souligne Isabelle Siak, psychologue et autrice de « Pour en finir avec l'hystérie féminine ». Le 19e siècle, c'est un peu l'âge d'or de la théorie de l'hystérie. On diagnostique des hystériques partout, à tour de bras. Généralement, les malades sont enfermés en foyer de jeunes filles en institution psychiatrique, on en parlait tout à l'heure. Et c'est aussi sur la base de cette théorie fumeuse qu'ont été imaginés des traitements spécifiques à nos organes sexuels. On ne devrait pas parler de traitement, on devrait dire des tortures. Clitorodectomie, stimulation vaginale, compression des ovaires, sangsues sur l'abdomen, le tout premier vibromasseur électrique a d'ailleurs été créé en 1880 pour traiter l'hystérie féminine en remplaçant du massage pelvien réalisé, lui, par les médecins à la main. À la fin du 19e siècle, Jean-Martin Charcot, neurologue à la Salpêtrière, décrète que l'hystérie, finalement, c'est pas une maladie de l'utérus, mais une névrose de l'encéphale, c'est-à-dire en gros une maladie neurologique. Cependant, il en fait, lui, toujours une maladie essentiellement féminine et c'est aussi au 19e siècle, que l'on a soit l'idée que les malades fantasment, qu'elles exagèrent quand elles ne simulent pas. Bref, les douleurs des femmes ne sont toujours pas prises au sérieux et leur corps et leur maladie sont réduites à une pathologisation psy.
Alors c'était qui ? C'est hystérique ?
Ben, si on compare les symptômes attribués à l'hystérie et des symptômes aujourd'hui qui serviraient sans doute à diagnostiquer de l'endométriose, une fibromyalgie peut-être, ou des troubles neurologiques fonctionnels, ou encore une épilepsie notamment. Et pendant toutes ces années, le diagnostic d'hystérie aura aussi ainsi permis de discréditer la parole portée par les femmes et d'enfermer des femmes qui ne voulaient pas se marier, des femmes qui résistaient, des célibataires, les femmes du peuple, des femmes esclaves. Car qualifier les femmes d'hystériques sert aussi à les exclure de la vie publique, puisqu'elles sont réputées d'un naturel malsain, sujettes aux maladies et soumises à leurs crises, et donc fragiles, il est logique de les exclure de la sphère du pouvoir et du savoir. Alors, au niveau international, il faut savoir que l'hystérie ne fait plus partie des classifications médicales depuis les années 60. Le diagnostic continue cependant d'être utilisé dans les pratiques. Alors, face aux préjugés sexistes bien ancrés de la femme hystérique, laisse tomber, elle est complètement hystérique, utilisée pour discréditer la parole des femmes, les féministes des années 70 se réapproprient l'insulte et le stigmate en clamant « toutes des hystériques ». Et plus récemment, les collages féministes visibles dans l'espace public de ces dernières années affirment « nous ne sommes pas hystériques, nous sommes historiques ».
They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they tried to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with bread. I ain't got 70 days. 'Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from this the halfway. Didn't get a lot in class.
Amy Winehouse et nos recommandations. Alors pour aller plus loin, encore plus loin dans le sujet.
Alors pour rester sur l'hystérie et les folles, on vous conseille Le bal des folles. C'est d'abord un roman, une fiction écrite par Victoria Mas qui relate les conditions de vie des femmes jugées folles et enfermées à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans les années 1880. Un roman qui a obtenu le prix Renaudot des lycéens en 2019. Le bal des folles, c'est aussi un film de Mélanie Laurent sorti en 2021, tiré du roman de Victoria Mas. Et c'est enfin une BD écrite et dessinée par Ariane Mellon et Véro Cazot, d'après toujours le roman de Victoria Mas, que vous pouvez emprunter à la médiathèque Césaire. On vous conseille aussi l'excellente émission de radio La Série Documentaire et ses 4 épisodes disponibles en podcast. Les fantômes de l'hystérie, histoire d'une parole confisquée. Un documentaire passionnant qui explore pourquoi et comment l'hystérie continue d'hanter nos représentations, nos imaginaires et nos jugements.
Alors on vous redit que c'est toujours intéressant de relire Lambeau, de lire ou de relire Lambeau de Charles Juillet, dont nous avons déjà bien parlé. Le début d'un roman qui s'appelle « Mille femmes blanches » de Jim Fergus, qui était un gros best-seller et qui raconte l'histoire de May Dodd, qui est une femme internée par la famille de son compagnon parce qu'ils n'étaient pas mariés, parce qu'ils avaient fondé une famille qui ne correspondait pas aux normes. Et donc, elle écrit un journal intime pour ses enfants. Et alors, à ce moment-là, se présente, elle est donc internée, se présente un échappatoire à l'enfermement à vie. Ce serait accepter de participer à un deal entre puissants en rejoignant 1000 femmes blanches qui seront échangées contre 1000 chevaux qui appartiennent aux Cheyennes. Super intéressant. Et puis, la puissance a vaincu des femmes, Mona Chollet, un classique.
Et puis, quelques propositions de mon côté. Alors, un roman, tout d'abord, paru en début d'année 2025. Mon vrai nom est Elisabeth, par Adèle Yon. Le résumé, la narratrice chercheuse se met en quête de réponses sur son arrière-grand-mère Elisabeth, morte avant sa naissance. D'elle, elle ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'après avoir été diagnostiquée schizophrène, elle a été lobotomisée dans les années 50. Un premier roman qui a reçu le prix littéraire du Nouvel Observateur en 2025. 2025 et le prix Essai France Télévisions toujours en 2025 et il est retrouvé dans les médiathèques de Bourg-en-Bresse. Et puis une série Empathie diffusée sur Canal+, un petit bijou venant du Québec réalisé par Florence Lompré dans lequel elle interprète une psychiatre qui arrive dans l'aile réservée aux cas extrêmes d'un centre psychothérapeutique. L'intérêt c'est qu'elle-même en fait ne va pas bien. Elle est en plein deuil, elle jongle avec sa dépression et ses addictions tout au long de la série. Alors à voir absolument pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la santé mentale abordée sous un autre angle que le docu d'Arte plombant. Les personnages hyper travaillés et pleins de nuances, avec une mention à Florence Lompré et Thomas Ngijel, qui est là, je pense, dans son meilleur rôle. Et puis, cette série, elle a même en fait des effets curatifs parce qu'elle fait du bien au moral. Alors attention, elle touche beaucoup à toutes nos émotions. Hein. Vous allez passer du rire aux larmes assez facilement et vous allez vite devenir accro. Donc je vous rassure, il y a une saison 2.
Libre et tout. Et au final, il y a des gens qui ont volé ma liberté.
Dépasser la douleur. Le combat d'Elena contre la dépression, filmé par sa sœur.
Elena, ça veut dire lumière.
Ce qui paraît.
Mais en quoi?
Sœur, un documentaire pour soigner leurs blessures, à retrouver sur France.tv.
Et un documentaire à retrouver sur France Télé, donc là, accessible à tous et toutes en replay. Donc le titre, c'est « Sœurs, journal d'une reconstruction ». Alors ici, c'est la réalisatrice Julia Zahar qui décide de documenter la dépression de sa sœur suite à son viol lors d'un séjour yoga en Inde. Alors, plusieurs entrées à ce documentaire. Dès le départ, on comprend que la petite sœur, elle est partie en Inde pour un stage formation yoga, justement parce que ça n'avait pas l'air d'aller déjà très très bien. Et malheureusement, elle va tomber sur des membres de la secte Hare Krishna. Alors là, ça questionne à cet endroit autour de ces gourous de la santé mentale, mais ce n'est pas du tout documenté dans ce documentaire-là. En tout cas, moi, je me le suis mis entre parenthèses à aller questionner. Et ça va plutôt documenter les 4 années de la maladie de Mao et comment le lien entre les deux sœurs va se poursuivre comme un fil rouge pour ne pas se perdre. Franchement, c'est un super beau documentaire. Mais alors attention, il peut être un petit peu... difficile à regarder.
On poursuit nos réflexions la semaine prochaine, dans la prochaine émission.
Alors, il sera à nouveau question de la santé mentale des femmes avec des questionnements un peu plus contemporains.
Merci à vous pour cette émission
et merci pour votre écoute. Rendez-vous le mois prochain et en attendant, portez-vous bien.
En une journée, on ne peut célébrer toutes celles et tous ceux qui ont fait avancer les droits des femmes.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas gagner l'égalité dans le travail, à l'assemblée, dans le couple.
Parce qu'en une journée, on ne peut pas tout dire, tout dénoncer, de l'utilisation de l'image des femmes pour vendre des voitures aux violences sexistes et sexuelles.
Retrouvez-nous tous les 3e vendredis du mois dans notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » et en podcast sur Radio B.